terme. Puis elle pensait qu'elle était libre. Finalement, elle s'était trompée dans le calendrier. Fait qu'en tout cas, elle vous salue tout le monde. Mais c'est pour ça que je suis tout seul ce matin. Les enfants, eux, participent à l'école du dimanche. Puis Annie, elle donne l'école du dimanche. Donc, voilà pour les nouvelles. Donc, toujours content d'être avec vous ce matin. Puis je fais une suite ce matin dans... Je vais faire un petit contexte. Là, je suis dans Éphésiens 6, versets 14 à 17. Et vous voyez le titre. J'ai pas tout le temps un PowerPoint, mais là, j'ai... Un, c'est un peu illustré quand même, l'armure de Dieu. Puis j'ai des citations, des fois, des citations que j'ai prises dans différents commentaires. Puis tant qu'à vouloir clarifier nous-mêmes, des fois, c'est plus simple d'y aller directement, que des fois, c'est plus long puis moins clair quand on veut. Fait que c'est pour ça que ce matin, j'ai un PowerPoint. Guillaume est venu il y a quelques semaines faire la première partie de cette section-là. Normalement, il parlait d'Astérix, entre autres, la potion magique, ça vous rappelle quelque chose? Bon, c'est ça, il est venu il y a quelques semaines. Ouais, évidemment, la potion magique, c'est le Saint-Esprit. Là. On avait compris l'idée. Donc voilà, donc moi, c'est la suite. Donc lui, c'est un peu le contexte plus général, un peu, qui amenait, lui, sa difficulté, c'est de ne pas parler de l'armure comme telle. C'était comme un peu plus général. Puis moi, je suis directement dedans ce matin dans l'armure de Dieu. Donc c'est un message extrêmement pratique. En fait, c'est potentiellement je ne pas le plus pratique, là, mais parce que ça touche tout le monde. C'est dans l'Épître à Éphésiens, on a parlé de... dans l'Épître aux Éphésiens, Paul a parlé du rôle de l'épouse, du rôle du mari, au travail, tu sais, maître-esclave, on peut associer ça au travail. Mais c'est pas tout le monde qui est touché par ça nécessairement. Tu sais, l'épouse, c'est une chose, mais l'armure de Dieu, ça touche tous les croyants. Là. Donc, je pense, pour ça que je dis que c'est extrêmement pratique comme section. Donc, mon titre, l'armure de Dieu. Puis, je vais faire une petite, quand même, mise en contexte. Il faut toujours prendre un passage puis le mettre dans son contexte. Donc, avant de lire le texte, je vais rappeler certaines choses. D'abord, on se souvient que Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. Donc, c'est l'Épître aux Éphésiens, donc c'est des chrétiens. Puis, c'est une ville où il y a beaucoup d'idolâtrie, beaucoup d'immoralité sexuelle dans ce coin-là, donc beaucoup de tentations. Donc, l'ennemi est très actif. Donc, vous voyez le lien, tentation, ennemi actif, l'armure de Dieu. Donc, tu sais, il est actif partout, mais souvent, il y a des villes peut-être plus importantes sur lesquelles l'ennemi peut se concentrer pour faire plus de problèmes, si je peux dire. Puis, les chrétiens éphésiens, bien, leur façon de penser, de réfléchir, la façon de vivre, bien, ils sont invités par Paul à changer. Une fois qu'ils sont devenus chrétiens, il faut qu'ils s'améliorent, il faut qu'ils soient distinctifs par rapport aux autres. Puis il y a plein de choses dans l'Épître aux Éphésiens qui ont déjà été dites par Paul pour marcher de façon différente, si on veut. Là. Comme je disais tantôt, le rôle des époux, des épouses, au travail, comment on doit se comporter. Bref, il faut que les chrétiens vivent différemment dans un monde qui est très corrompu. Aujourd'hui, ce serait la même chose. Notre monde, on l'a prié tantôt, notre monde est très corrompu, mais à Éphèse, déjà, ça l'était beaucoup. Donc, comme je disais, la section entre les versets 10 et 20, elle est très explicite, probablement la plus explicite sur l'armure du chrétien. Donc, c'est ce qu'on voit ce matin. Puis, comme je disais, là, on se concentre sur l'armure. Il faut penser que le passage précédent que Guillaume vous a amené, les deux sont intimement liés, là. Il est un peu plus général, mais là, on rentre directement dans l'armure ce matin. Mais ce que Guillaume vous a mentionné, c'est qu'on est engagé dans un combat spirituel, qu'on le veuille ou pas. Fait que ça, on ne peut pas s'en échapper de ça. Il y a un combat qui fait rage. Puis, il nous a rappelé aussi dans cette section-là qu'on ne se bat pas contre la chair, mais contre des ennemis beaucoup plus forts que nous. Dans une illustration qu'il y avait, il y avait un loup avec des brebis. Une brebis devant un loup, ça n'a aucune capacité. Puis en plus, il y a plusieurs loups, la brebis, elle n'a aucune défense. On a une défense, mais c'est avec l'armure de Dieu. Mais par nous-mêmes, c'est impossible. C'est un combat qu'on est contre des ennemis beaucoup plus puissants. Donc, on a besoin de l'armure de Dieu. Puis lui, faisait référence à la potion magique. C'est le Saint-Esprit qui donne la force à l'armure de Dieu. Puis, donc, avec cette armure-là, sans armure de Dieu, on ne peut pas tenir ferme. Puis, l'objectif, c'est l'application aussi. Là, je vous le donne en mille là, tout de suite, là, mais l'application générale, le thème de ce qu'on voit ce matin, c'est de tenir ferme. Donc, sans l'armure de Dieu, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Là, je vais lire le passage en 14 à 17, sauf que je vais commencer au verset 11 pour le contexte. Donc, Éphésiens 6, verset 11, je vais lire jusqu'à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. partir du verset 14, c'est plus là qu'on se concentre aujourd'hui. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Comme je disais, c'est extrêmement pratique comme message qu'on a devant nous ce matin. Puis comme je disais, même si ce n'est pas visible, on est dans un combat constant. On ne peut pas échapper à ce combat-là. Surtout si on veut obéir à Dieu. Évidemment, sur un champ de bataille, quelqu'un qui ne se bat pas vraiment, il va être moins la cible de l'ennemi, mais il est sur le champ de bataille quand même. Donc, si on veut plaire à Dieu en plus, ben, on est directement sur le champ de bataille. Puis, comme on est en guerre, ben, l'ennemi, justement, nous attaque, qu'on le veuille ou pas. Peu importe ce qu'on fait, il va nous attaquer quand même. Alors, il faut s'équiper, il faut être prêt à se défendre, prêt à contre-attaquer. C'est l'objectif de l'armure. Puis, comme on a lu entre les versets 11 et 13, cette armure-là ne sert pas à se battre contre des hommes. On se bat contre des ennemis plus puissants que nous. Je résume un peu ce qu'on a lu. Donc, ruse du diable, au verset 11, au verset 12, on dit les dominations, les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre ça, c'est ça notre ennemi. C'est contre ça qu'on doit se battre. Puis, ça, une chose importante à mentionner, on est dans une guerre spirituelle, mais la victoire, elle est assurée. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on doit tenir ferme. C'est pas combattre pour moi ou obtenir la victoire pour moi. Ça, Dieu s'en occupe de ça. La victoire, elle est acquise. Seigneur, sur la croix, il est mort, il est ressuscité. Satan, il est vaincu. Fait que nous, ce qu'on doit faire en attendant que le Seigneur revienne, c'est de tenir ferme. Mais la victoire, elle est assurée, là. Ça, c'est vraiment important à comprendre ça. Sauf qu'entre-temps, entre le retour du Seigneur, nous, on doit tenir ferme. Mais Satan, lui, ce qu'il fait, c'est il fait du mal pour nuire aux chrétiens, mais surtout, il veut éviter que d'autres personnes viennent au Seigneur. Ça, c'est sûr, son rôle. Fait, puis, il est très efficace là-dedans, malheureusement. Il est sournois, il est extrêmement puissant, très intelligent. Mais c'est son rôle. Mais une chose importante, on est dans une guerre spirituelle, oui, mais on a la victoire par le Seigneur. Mais ça, c'est vraiment important à se rappeler. Puis, je relis aussi juste un petit verset dans Éphésiens 4, juste un peu avant, 4:27, où Paul nous dit « Ne donnez pas accès au diable. » C'est justement l'adversaire, il est extrêmement sournois. Il attend toujours le bon moment pour nous attaquer. Moment de faiblesse, moment de, bon, on fléchit le genou. Lui, il va tout le temps être là. On parle de Satan, mais évidemment, on parle de ses anges. Là. Satan, il n'est pas omniprésent. Il n'est peut-être pas à Sainte-Marie aujourd'hui, là, mais il y a des démons partout, là, on se comprend. Donc, puis il est très intelligent, très rusé, comme je disais. Fait qu'il ne faut pas négliger nos défenses. Sans l'armure de Dieu, on ne peut pas lutter contre lui. Il n'y a pas question d'orgueil là-dedans. Ça nous prend l'armure de Dieu, puis dépendre de lui-même. C'est ce qu'on va voir. Puis je fais une petite parenthèse aussi. Souvent, on se remémore, puis là, je vais vous montrer. C'est très illustré, évidemment. Une question de l'armure, c'est très facile à illustrer, mais ce n'est pas l'armure d'un soldat romain. J'ai fait exprès, j'en ai illustré une, mais je n'ai pas pris un soldat romain, parce que, tu sais, Ésaïe déjà en parle. Quand vous lisez dans Ésaïe, à différents endroits dans Ésaïe, il va parler de l'armure de Dieu. Il va la décrire, puis il va parler comme de quoi Dieu et son Messie utilisent cette armure-là pour lutter contre les ennemis de Dieu, puis pour défendre le peuple. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas, une armure de soldat romain qu'on parle ici. Cela dit, les Éphésiens, évidemment, c'est très illustré comme passage. Les Éphésiens étaient entourés de soldats romains. C'est probablement qu'ils l'ont illustré de cette manière-là, là, on comprend. Paul lui-même était en prison ou en genre de résidence surveillée, mais potentiellement souvent même enchaîné avec un soldat romain. Fait que lui-même, c'est facile à voir. On parle d'armure, on pense à ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est que, essentiellement, ce n'est pas une armure humaine. On peut se l'illustrer, c'est facile à illustrer, évidemment, une armure. Il faut le faire pour avoir l'image. Mais ce n'est pas une armure humaine, ce n'est pas une armure romaine non plus, c'est une armure spirituelle. Donc, il faut avoir ça en tête aussi. Fait que des fois, on se pose la question, c'est une armure en métal, en bois? T'sais, les Romains avaient une petite épée, une grande épée, un petit bouclier, un grand bouclier. Ce n'est pas important, ça. C'est une armure qui est spirituelle. Tout le reste du débat, selon moi, en tout cas personnellement, c'est un peu moins d'important. C'est une armure qui est spirituelle. Fait que c'est une petite parenthèse que je voulais faire aussi. Comme je disais tantôt, puis là, je fais référence à ce que Guillaume disait aussi, l'aspect potion magique, c'est le Saint-Esprit Il parlait d'Astérix, vous vous souvenez un peu de l'idée. Donc, pour avoir sa puissance, il prenait sa potion. Mais nous, cette potion-là, c'est le Saint-Esprit. Notre armure, elle a une efficacité avec le Saint-Esprit. Puis si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas un chrétien authentique, on n'est pas réconcilié avec Dieu, mais cette armure-là, elle n'est pas utile. On ne peut pas prendre le bouclier de la foi à moitié. Elle n'est pas utile. En fait, pour un incroyant, il fait partie du combat spirituel, mais il n'est pas du bon côté. C'est triste, mais un incroyant, son rôle, ce n'est pas de se soucier l'armure de Dieu, tout ça, non. C'est d'être réconcilié avec Dieu. Sa priorité, c'est de réconcilier avec Dieu, puis après ça, il pourra se servir de l'armure. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Donc, cette armure-là s'adresse, c'est une armure spirituelle, mais qui est pour les croyants, évidemment. Saint-Esprit peut travailler, etc. Donc là, j'y vais avec les aspects de l'armure. Je vais tranquillement avec ça ici. Donc, j'ai une petite illustration à droite. Évidemment, ça ressemble à une ceinture de l'époque. Évidemment, c'est une illustration. Mais une ceinture, donc, si elle nous dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », les soldats à l'époque, vous savez, aujourd'hui, on a des vêtements très bien ajustés. On fait n'importe quel exercice, ça fit bien sur le corps, etc. Dans le temps, les vêtements étaient probablement plus amples, les tuniques, tout ça, fait que ça prenait une ceinture pour attacher le vêtement solidement en place. C'était le rôle à l'époque de la ceinture, c'est encore important aujourd'hui, mais on a des vêtements beaucoup plus, qui fit mieux, excusez-moi le terme, mais à l'époque, les vêtements étaient plus amples, ça prenait une ceinture qui tenait tout le reste en place, puis c'est la vérité qui sert de ceinture. C'est la vérité de l'Évangile qui tient tout le reste en place de notre vie chrétienne. Je fais allusion, cela dit, dans chacune des armures qui sont présentées, chacune partie de l'armure, Paul en a déjà discuté dans son épître. Fait que je ne ferai pas tous les liens possibles parce que ça déborderait. Mais entre autres, dans ce cas-ci, au chapitre 1, verset 13, Paul va nous dire, il parle aux Éphésiens, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, Paul en a déjà parlé de ça. Alors, c'est important de s'attacher à la vérité, d'autant plus que vous savez que Satan, c'est le père du mensonge. Donc, lui, un de ses rôles, c'est semer un doute. Semer un doute, il a fait ça dès le début. C'est un doute qui est semé dans la tête de Ève. Donc, quand on dit qu'il faut s'attacher à la vérité, c'est parce qu'entre autres, l'ennemi est extrêmement rusé, puis il va mettre des doutes, il va mettre des mensonges dans nos têtes. Un mensonge ou un doute dans l'esprit du chrétien, mais ça peut, excusez-moi le terme encore une fois, ça peut lousser un peu l'armure. Si tu défais un peu ta ceinture ou tu l'enlèves carrément, ça donne du lousse, ça donne accès au diable. Donc, il faut s'accrocher à la vérité. Puis la seule façon de lutter contre les ruses, les mensonges, les tromperies, bien, c'est de connaître la vérité. C'est comme ça qu'on peut voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est un doute que l'ennemi veut nous semer ou pas. Une citation aussi. « Satan combat au moyen de mensonges qui souvent ont une apparence de vérité, mais les croyants détiennent la vérité de Dieu qui leur permet de résister à ces mensonges. » Dans le fond, il faut le rechercher, cette vérité-là. Il faut s'y accrocher, il faut s'appuyer dessus. C'est fondamental, c'est ce qui tient. L'idée de la ceinture, c'est ce qui tient tout le reste solidement en place. Alors, c'est notre première arme, l'attachement à la vérité. Puis, je ferai une petite parenthèse aussi, c'est qu'il y a une autre fonction peut-être de la ceinture, c'est de porter l'épée. Fait que si on n'a pas de ceinture, probablement qu'on n'a pas l'épée non plus. Donc, vérité, parole de Dieu, les deux vont probablement ensemble, mais c'est ce qui tient tout le reste en place. Donc, c'était la première arme. La deuxième, c'est la cuirasse. On parle de justice, donc revêtez la cuirasse de la justice. Une cuirasse, ça protège le haut du corps, donc les organes vitaux, le cœur, les poumons. Essentiellement, c'est ça le rôle à la guerre. Puis on parle de justice ici, mais on parle surtout de l'aspect justice dans le terme de droiture. En anglais, ce ne serait pas justice ici, ce serait, excusez-moi l'accent, mais righteousness. C'est marcher avec droiture. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que ça fait référence surtout à notre manière d'agir, la question de marcher dans l'Évangile d'une manière juste. Parce que la justification, ça, c'est une fois pour toutes. Quand on vient au Seigneur, on est justifié. Fait que c'est pas « je mets l'armure » ou « je mets la cuirasse, je l'enlève, je suis justifié ou pas ». La justification, selon le sens que Dieu nous voit juste à travers son Fils, ça, je le mettrai dans la vérité. C'est une vérité, c'est une base essentielle. Mais c'est ici, l'idée, c'est de marcher avec justice, selon les normes de Dieu. Donc, c'est davantage ça qu'on fait référence ici. Puis, donc, c'est une question de consécration et de sainteté, beaucoup plus. La justification, c'est vrai, mais comme je disais, ça fait partie de la vérité. C'est ce qui tient solidement en place avec la ceinture. Ici, c'est de marcher d'une manière juste. Dans Romains 6,13, Paul va dire « Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » C'est l'idée ici. Donc, on doit marcher dans la sainteté de manière consacrée dans la justice de Dieu. C'est le rôle ici. J'ai trois citations pour la suite, pour la cuirasse. La première, « Satan est l'accusateur, mais il ne peut accuser le croyant qui vit une vie pieuse dans la puissance de l'Esprit. » J'ai pas noté qui, j'ai plusieurs commentaires que j'ai lus, j'ai pas noté à chaque fois qui disait quoi, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. La deuxième citation, « Quand un homme est revêtu de la justice et la met en pratique, il est invincible. » Pas facile d'être invincible, mais si on arrivait à porter ça parfaitement, ben on serait invincible, c'est la façon d'y arriver, évidemment. Puis évidemment, comme je disais, l'armure, la cuirasse sert à protéger les organes vitaux. Donc, on pourrait penser à nos sentiments, l'aspect moralité un peu, si on y va dans l'aspect illustré. Donc, la troisième citation. « Satan porte souvent ses attaques contre notre cœur, le siège de nos émotions, de notre conscience et de notre confiance. La justice de Dieu est l'arme qui protège notre cœur et nous assure son soutien. » Bien important. Puis, je relis encore une fois au chapitre 4, verset 1. Comme je disais, chacune des facettes de l'armure, Paul en a déjà traité. Ça, c'est des liens qui sont importants à faire. Je ne les fais pas tous. Mais au verset 1, donc Paul 4, 1, Paul Éphésiens 4, 1, excusez. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » C'est ça son propos, c'est ça le rôle, la cuirasse, de marcher avec justice. C'est ça qu'il veut dire Paul aux Éphésiens. Puis, comme je disais tantôt aussi, il y en a plusieurs choses qui ont déjà été traitées par Paul dans cet épître-là. Comment marcher dans la justice, dans le couple, le rôle de l'homme, de la femme dans le couple, au travail, avec l'aspect maître-esclave, mais de nos jours, on parlerait plus au travail, dans l'assemblée, dans l'église, etc. Donc, il y a déjà des éléments que Paul a mentionnés de comment marcher dans la justice. Il l'a déjà enseigné aux Éphésiens. Donc, c'était la deuxième partie de l'armure. La troisième, ce sont les chaussures. Donc, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Aujourd'hui, on a des chaussures pour tout ce qu'on veut faire. N'importe quel sport que tu veux faire, il y a une chaussure appropriée, une chaussure pour le travail, pour la marche, la randonnée pédestre. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais pour un soldat, peu importe l'époque, c'est plus facile aujourd'hui avec les matériaux qu'on connaît, mais pour un soldat, c'est extrêmement important la chaussure. Une chaussure, elle doit s'adapter à plein de terrains différents. Des fois, tu es dans la boue, des fois, tu es sur le solide, des fois, tu peux être dans l'eau, tu peux monter des choses, etc. Il faut qu'elle soit souple, qu'elle soit rigide, mais c'est extrêmement important, ces chaussures-là. Puis l'idée qu'on a ici, j'allais dans une citation d'ailleurs, en fait, si un soldat n'a pas des bonnes chaussures, il peut tomber ou il peut ne pas être solide sur ses pieds. C'est ça ce que je voulais mentionner. Mais dans la citation qui est ici, « Une bonne paire de bottines permet au soldat d'être prêt pour la marche, l'escalade, le combat ou quoi que ce soit d'autre qu'il ait à faire. C'est là l'état de préparation que Christ demande aussi à son peuple. » C'est l'idée d'être solide sur nos pieds, mais on ne sait pas exactement ce que demain nous réserve, ce qu'aujourd'hui nous réserve même. Fait qu'il faut être prêt à ça. Il faut être agile, il faut être solide, enraciné, solide sur nos pieds, comme des chaussures de soldats. On ne peut pas changer à chaque fois. Il faut être prêt à chaque situation. Fort probablement que quand Paul a mentionné ça, il avait en tête un autre passage d'Ésaïe. Comme je disais, Ésaïe parle de l'armure de Dieu. Puis dans Ésaïe 52, il ne tournera pas. Mais Paul mentionne dans Romains, 10-15, donc il fait référence à Paul. Ça, on peut y tourner. Donc, dans Romains, c'est un verset. Romains 10-15. Sur la chaussure, probablement que vous voyez un peu où je veux en venir avec ça. Dans Romains 10-15, un passage que j'avais déjà entendu, c'est sûr. Donc, Romains 10-15. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » En fait, le zèle de proclamer l'Évangile, c'est vrai, c'est un de nos rôles d'évangéliser. On en parle un peu tantôt. C'est un de nos rôles. C'est assurément un aspect. Je vais juste faire allusion aussi que dans le passage, On doit tenir ferme dans un combat spirituel. Si on poursuit l'image, quelqu'un est entouré de démons, on peut les évangéliser, mais en théorie, ça ne servira pas. Fait qu'il faut tenir ferme dans un combat. Fait que c'est sûr que ce zèle-là d'évangéliser est très important, mais pour tenir ferme dans un combat, ici, c'est plus l'idée de s'appuyer sur les bénédictions, s'appuyer sur les choses qui sont sûres, les promesses, la connaissance de Dieu, la certitude de la victoire, d'être enraciné là-dedans. Je pense que c'est davantage ça, ici, auquel on fait référence dans un combat. Donc, une autre citation. En fait, non, c'est pas une citation, mais quand Satan nous attaque, la chaussure de l'armure permet d'être solidement enraciné. En fait, c'est dans 4.14. Je vais aller lire dans Éphésiens 4.14, juste un peu avant, la question d'être enraciné. Donc, 4.14. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » C'est exactement ça, l'idée. Il y a beaucoup de potentiel de chute dans le monde, mais si on est bien enraciné, avec une bonne paire de chaussures, on va mieux adhérer au sol, puis on ne tombera pas. C'est ça, l'idée. Ici, donc, très important, Éphésiens 4.14, c'est à ça, je pense, que Paul fait référence ici. Puis Paul lui-même est un exemple de zèle pour l'Évangile, des deux façons que j'ai expliquées. Autant il avait du zèle pour proclamer l'Évangile, mais autant il a tenu ferme aussi dans ses convictions. Il est allé en prison pour ça. En fait, quand il écrit l'Épître, il est en prison. Donc, il tient ferme. Il proclame l'Évangile, mais il tient ferme aussi dans les promesses. Il n'y a pas de crainte. Puis, aucun moment où on voit qu'il semble être pas joyeux, Paul, quand il s'adresse aux Éphésiens ou dans les autres Épîtres, il y a une assurance, il y a une paix que personne ne peut y enlever. Parce qu'il porte les chaussures puis il tient ferme dans l'Évangile, si je peux le dire. Puis d'ailleurs, on parle d'Évangile de paix ici. Puis Paul, surtout au chapitre 2, a déjà mentionné plusieurs éléments de la paix. Réconciliation entre les hommes, entre les nations. Tu sais, quand on parlait dans Éphésiens un peu plus tôt, l'espèce de barrière de séparation entre juifs, non-juifs, grecs, non-grecs, esclaves, maîtres, tout ça. Donc, c'est un élément de paix, de réconciliation que Paul a déjà enseigné dans cette épître-là aussi. Donc, c'est un évangile de paix qui réconcilie, entre autres, les hommes avec Dieu. Donc, c'était une autre partie de l'armure. La suivante, c'est le bouclier de la foi. Je relis le verset 16. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » En fait, l'assurance de la foi, les promesses sur lesquelles on s'attache. Paul, comme je disais encore une fois, il en a parlé, on n'y tournera pas, mais dans l'Épître aux Éphésiens, il a déjà dit au chapitre 1 qu'on était scellés du Saint-Esprit. Au chapitre 2, un verset très connu, l'idée qu'on est sauvé par grâce. Il mentionne ça, entre autres, au chapitre 2. Au chapitre 3, l'idée de la liberté de s'approcher de Dieu avec confiance. Aussi, le fait que Christ habite dans nos cœurs. Tous ces éléments-là, c'est la base, fait partie de la base de notre foi, le rocher de notre foi. Puis il faut croire à ces promesses-là par la foi, puis il faut s'appuyer dessus. C'est extrêmement important. Bref, il faut faire parfaitement confiance en Dieu. On a une idée de marcher par la foi dans une entière soumission. C'est l'idée certainement ici du bouclier. Une citation que j'ai notée. « La foi en Christ procure le salut et continue ensuite à nous procurer ses bénédictions » et sa puissance lorsque nous nous confions en lui pour notre force et nos besoins quotidiens. » Alors, l'idée, c'est d'avoir toujours ce bouclier de la foi. En fait, les flèches enflammées, il faut comprendre, c'est une flèche. C'est un peu la même idée que les espèces de lampes torches qu'on voit dans certains films. Là. Ils mettaient du tissu dessus, plonger dans l'huile, mettre le feu là-dedans, ça fait une torche, mais c'est la même chose pour les flèches. Fait que tu peux faire un dégât si tu reçois une flèche qui représente les tentations, cela dit, ces flèches enflammées là, du malin. Fait que tu peux blesser par la flèche, mais en plus, même si tu l'arrêtes ou quoi que ce soit, ça peut mettre le feu. En fait, dans le fond, c'est comme deux fois plus violent comme flèche, si on veut. Là. Ça reflète les tentations. Fait qu'il faut tout le temps avoir le bouclier à portée de la main. Et des fois, sur l'image d'un soldat, des fois, le soldat, il se déplace. Il va l'avoir peut-être de côté pour se déplacer plus vite, mais l'idée, c'est pas de l'avoir dans le casier en arrière, le bouclier, parce qu'on ne sait jamais. Puis il est très fort, Satan. Il va attendre le moment où, justement, on baisse notre garde puis que le bouclier est plus loin. Puis c'est là qu'il va peut-être nous envoyer des tentations. Donc, il faut toujours se méfier. Satan décoche des traits enflammés dans nos cœurs et nos pensées. Mensonges, pensées blasphématoires, sentiments de haine envers les autres, Doute, désir ardent de péché. Si nous ne pouvons éviter ces flèches, elles allumeront un feu et nous désobéirons au Seigneur. Il faut toujours se méfier d'avoir le bouclier à portée de main. Quand la tentation est brûlante, quand les circonstances sont défavorables, quand les doutes assaillent, quand le naufrage menace, la foi lève les yeux et dit « Je crois Dieu ». Donc, ça, c'est le bouclier de la foi, d'être vraiment enraciné dans notre foi, sur notre rocher qui est le Seigneur Jésus. L'élément suivant, donc, c'était prenez donc, le casque. Prenez aussi le casque du salut. Comme je disais, même chose pour la cuirasse tantôt. Le casque, c'est pas juste l'idée d'être sauvé. On est sauvé une fois pour toutes. Quand on vient au Seigneur, on est sauvé. Donc, ça fait partie de la vérité. C'est pas je suis sauvé, j'ai mon casque, j'enlève le casque, je suis plus sauvé. C'est pas ça l'idée. On est sauvé une fois pour toutes. Donc, le casque du salut, c'est cette certitude-là de savoir qu'on est déjà sauvé. Évidemment, donc, puis l'idée du casque, c'est que ça protège la tête. Ça fait référence à nos pensées et à notre esprit. Satan attaque ça beaucoup. Puis si Satan attaque ça, peut nous faire douter de notre amour pour Dieu, de notre salut, ça peut faire vraiment des dégâts. On peut être découragé. Ça peut même nous paralyser d'une certaine façon. Si Satan réussit à semer un doute sur l'amour de Dieu envers nous, sur notre salut, ça peut faire vraiment du dégât. C'est un peu l'idée du casque. Ça nous protège nos pensées sur tous ces doutes-là, ces mensonges-là qu'on pourrait avoir. Pour nous décourager, il attire, on parle de Satan, notre adversaire, il attire notre attention sur nos manquements, nos péchés, nos problèmes non résolus, notre mauvaise santé, ou quoi que ce soit de négatif dans nos vies, afin de nous faire perdre confiance dans l'amour et les soins de notre Père céleste. C'est exactement pour ça qu'on doit avoir un casque qui est vraiment solidement attaché, parce que sinon nos pensées, surtout dans un monde où il y a de l'information partout, nos pensées peuvent... On peut être distrait facilement dans nos pensées, très certainement. C'est pour ça qu'il faut avoir un casque. Puis il y a des versets en particulier, si des fois on doute, parce qu'on peut, quelqu'un pourrait douter de son salut à un moment donné. J'ai tellement une vie de péché, je suis vraiment sauvé, etc. Est-ce qu'il m'aime vraiment à Dieu? Bien, on peut, dans notre vie, commencer à douter. Il y a certains versets qui sont encore plus solides que d'autres quand le doute vient nous chercher. Je pensais à un, en fait, c'est deux versets dans Romains. Puis il y en a plein de versets qui sont réconfortants quand on doute. Satan veut qu'on doute de certaines choses. Ça nous paralyse quand on se met à douter de nous-mêmes. Puis on œuvre moins pour le Seigneur. Romains 8, 38. C'est des versets quand même très connus, puis sont vraiment solides. Quand on a le doute, vient nous chercher. Là, bien, c'est des versets qui peuvent nous rassurer. Je lis les versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances... ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Ça fait partie du casque. Avoir cette assurance-là, quand on doute, ça fait partie du casque du salut. Donc, il faut faire attention à nos pensées. C'est sûr que Satan va venir nous mettre des doutes de temps en temps. Es-tu vraiment sauvé? Ou est-ce que Dieu t'aime vraiment? C'est l'importance d'avoir le casque solidement attaché. Si on l'enlève, on devient très vulnérable aux attaques de l'ennemi. Oh, j'ai sauté, je n'ai pas suivi avec mes références. Il me restait une citation. « Quelque féroce que soit la bataille, le chrétien n'est pas intimidé, puisqu'il sait que la victoire finale est assurée. » Ça aussi, c'est une assurance qu'on doit avoir. Il faut être certain d'une chose. Des fois, on fléchit dans le combat, mais notre victoire est assurée. L'assurance de la délivrance ultime le préserve de reculer et de se rendre. Donc, l'importance d'avoir le casque, préserver nos pensées sur les doutes que Satan pourrait nous donner. La dernière facette de l'armure, c'est l'épée. Donc, ça a commencé par « prenez ». Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une arme qui est défensive. On peut, dans un combat, s'imagine un combat corps à corps, tu peux dévier les coups de l'ennemi avec une épée, mais c'est aussi une arme offensive. C'est la seule qui est décrite dans l'armure. Le verset suivant parle de prière, mais dans l'armure, c'est la seule arme qui officiellement peut être offensive aussi, mais elle sert aux deux. C'est défensive et offensive. Mais Satan, en fait, la parole de Dieu, même Satan ne peut pas s'y opposer. En fait, c'est l'arme la plus puissante de l'univers. L'univers est écrit par la parole de Dieu. C'est l'arme la plus puissante. Puis j'ai un verset là-dessus aussi dans Hébreux. On était dans Hébreux ce matin. Dans Hébreux 4:12, un verset, je pense, pas mal connu quand on parle de la parole de Dieu. C'est important de le lire quand on parle de l'épée, comme faisant partie de l'armure. Je pense que la meilleure description en un seul verset, c'est Hébreux 4:12. Je vous laisse quelques instants pour ceux qui tournent. Donc, Hébreux 4:12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ça, c'est une arme redoutable. Satan ne peut pas se battre contre ça. C'est l'arme, comme je disais tantôt, la plus puissante de l'univers. Dieu a créé l'univers par la parole, par sa parole. Donc, c'est extrêmement puissant. Pierre, parce qu'il y a l'épée, en fait, j'avais un autre petit, me semble, une épée perce les corps, mais la parole de Dieu perce les cœurs. À Gethsémané, donc juste quelques heures avant que le Seigneur Jésus aille à la croix, Pierre a essayé l'épée de façon physique, une vraie épée. Là, puis pas sûr où c'est qu'il a pris le maniement de l'épée, mais il a arraché l'oreille de Malchus. Il s'appelait Malchus. Fait que je ne sais pas comment il a shooté ça. Son maniement d'épée n'était pas super important, il n'était pas super bon. Il y avait quelqu'un devant lui, puis il a réussi à y arracher l'oreille, que le Seigneur va arranger ça. Fait qu'il a essayé de manier l'épée, mais beaucoup plus tard, fait qu'il a vu peu de succès. Il voulait défendre le Seigneur avec son épée, puis ça, il a arraché une oreille seulement. Mais il va apprendre plus tard, par contre, le maniement de la vraie épée, de la parole de Dieu, puis il va être excellent. Pierre aura appris à Gethsémané, il n'était pas super bon avec une épée physique, avec la parole de Dieu, entre autres, dès la Pentecôte, la première prédication de l'Évangile, je peux dire. Là. Des milliers de personnes vont venir, il va écrire des épîtres, fait qu'il va trouver beaucoup plus efficace le maniement de la parole de Dieu qu'une épée, on va dire physique. Comme ça, c'est beaucoup plus puissant, l'épée de la parole de Dieu. Puis d'ailleurs, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il a manié l'épée aussi de la parole de Dieu. On s'en souvient, quand il a été baptisé, il est allé au désert. Puis on voit aussi que Satan est allé le tenter, mais il n'est pas allé tout de suite. Il a attendu 40 jours. Puis il faut penser que 40 jours dans le désert, tu n'es pas en top shape. Là. Fait qu'il a, t'sais, il est sournois. Il a attendu un moment potentiel de faiblesse du Seigneur. Puis trois fois, il va le tenter. Puis les trois fois, vous vous souvenez, c'est quoi les premiers mots du Seigneur? Quelqu'un s'en souvient? Exactement. Les trois fois, il va répondre, « Il est écrit. » Donc, trois tentations, puis comme je dis, après 40 jours quand même. Fait qu'il a commencé, « Il est écrit, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Puis après ça, c'est marqué que Satan va le quitter jusqu'à un moment favorable. Il va revenir, à un moment donné, il va tout le temps être là, mais oh, il ne peut pas lutter contre la parole de Dieu. Donc, il faut le manier. Puis ici, c'est une façon aussi de parler que ça prend une épée, on travaille avec précision. On ne fait pas comme Pierre puis qui fesse dans le dos un peu puis qui atteint une oreille. Il faut être efficace avec une épée. Fait que c'est l'idée de pas juste. T'sais, plus on connaît la parole de Dieu, plus on peut utiliser efficacement l'épée. C'est ça que ça veut dire. C'est le Seigneur qui répondait à Satan, il répondait directement avec l'attaque qu'il lui faisait. T'sais, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il disait ouais, t'as faim après 40 jours, effectivement, mais il répondait précisément. Alors, plus on connaît la parole de Dieu, plus on peut manier efficacement l'épée de la parole. J'ai quelques citations aussi, j'en ai deux en fait. « Mieux nous connaîtrons la parole de Dieu, mieux nous pourrons découvrir les mensonges de Satan et rejeter ses offres. » Puis une deuxième citation. « Si nous voulons l'emporter sur Satan, nous devons connaître la parole de Dieu, l'aimer et la mettre en pratique. » Donc ça, c'était les armures, c'était l'armure, c'était les facettes de l'armure. J'ai une petite conclusion quand même, c'est quand même pas mal de choses. Là. Fait que si on veut bien digérer le tout, je vais faire une petite conclusion. D'abord, on voit dans ce passage-là, puis lui d'avant, qu'il y a une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, je peux dire, c'est qu'on apprend dans ce texte-là, surtout je fais référence, j'inclus aussi de ce que Guillaume vous a dit, on apprend qu'on est dans un combat, qu'on est engagé, donc il existe un combat spirituel, puis que peu importe qu'on le veuille ou pas, on est engagé dedans. Bon, c'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on possède une arme, une armure beaucoup plus puissante. Plus puissante qu'on peut l'imaginer aussi, qui est l'armure de Dieu. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Il n'y en aura plus de combat spirituel un jour. Quand on va être avec le Seigneur, on a fait référence au retour du Seigneur tantôt. Quand on va être avec, il n'y en aura plus de combat. On va être avec lui. Il n'y aura plus de péché même éventuellement. la difficulté à le concevoir, mais ça va être ça pareil plus tard. Mais en attendant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une armure pour vivre dans ce monde-là. Rappel aussi important, la victoire, elle est acquise. Je l'ai mentionné tantôt, mais on est dans un combat spirituel, mais ce n'est pas pour la victoire qu'on se bat. La victoire, Dieu s'en est occupé. La victoire, elle est acquise. Peu importe, même si on fléchit le genou, ça va être plus triste, mais on est sauvé. Si on est sauvé, c'est une fois pour toutes. Notre but, c'est de tenir ferme. Ce n'est pas d'avoir la victoire pour Dieu. Il s'en est occupé de ça. Puis, il est encore souverain dans le monde. Il n'y a rien qui lui échappe. Nous, notre rôle, c'est de tenir ferme. Puis, j'avais aussi 2 Timothée que j'ai mentionné ici. Oups, là, j'ai gâché un petit punch. Dans 2 Timothée, on porte l'armure de Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Mais on pourra dire, comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça, ce qu'il disait à Timothée, c'est à quelques jours, quelques semaines de mourir, c'est ses derniers écrits à Paul, puis il a porté l'armure, puis il peut dire ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est notre objectif aussi à nous, de mettre cette armure-là en tout temps, l'avoir en permanence. Bien important. Puis, je faisais une petite parenthèse, j'ai un peu mis ça à l'écran, mais je disais tantôt, c'est une armure qui est spirituelle. Puis ça, on n'ira pas voir chacun des versets que j'ai mis là, mais une façon de s'illustrer cette armure-là, on peut penser à un soldat, évidemment, c'est illustré dans cette manière-là, mais quand je dis que c'est une armure spirituelle, on peut aussi penser au Seigneur Jésus, qui est lui-même chacune des facettes de l'armure. C'est ça mon point avec ce petit extra-là. En fait, dans Romains 13, Paul va dire « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Donc, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ »,« Revêtez-vous de l'armure de Dieu », c'est pas mal des synonymes. C'était ça mon point. On a parlé de revêtir l'homme nouveau aussi dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, ce sont des synonymes. On n'ira pas voir les versets, mais c'est juste pour montrer que Seigneur Jésus, il est l'armure aussi. Il est la vérité. Il y a peut-être d'autres passages que j'aurais pu citer, mais Seigneur Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Fait que oui, on peut penser à une ceinture, on peut penser au Seigneur Jésus aussi. Il est notre justice, la cuirasse, il est aussi notre justice. J'ai mentionné un verset ici, mais oui, on est justifié en Christ, donc c'est aussi notre armure la plus puissante, c'est lui. Notre paix, j'ai mentionné un autre verset là, mais il est notre paix. D'ailleurs, dans Éphésiens 2,14, je vais le lire, c'est juste à côté, mais 2,14, « Car il est notre paix ». Donc, on parle de l'armure ici, mais il est notre paix. Il est la base de notre foi aussi. On parle de notre bouclier, c'est la foi. On va sortir le bouclier pour contrer les tentations, les traits enflammés. Mais le rocher de notre foi, il va le dire aussi à Pierre. Hein? C'est sur ce rocher que je vais bâtir mon Église, sur ce roc. Donc, sur la foi de Pierre qui vient de lui témoigner. Donc, il est la base de notre foi. Notre salut, référence au casque, mais il est notre salut. J'ai mentionné un verset d'homme, il y en a plusieurs autres où on voit que, clairement, notre salut est dans le Seigneur Jésus. Puis, je disais tantôt, Seigneur Jésus maniait parfaitement l'épée quand il était ici, l'épée de la parole de Dieu, mais il est beaucoup plus qu'un bon manieur d'épée. Il est la parole de Dieu. Dans Jean 1, surtout les versets 1 à 3, le verset 14, dit clairement que le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. Donc, c'était une idée. Fait qu'on peut s'illustrer, évidemment, une armure par quelque chose d'un soldat, mais toute cette armure-là qui est spirituelle, c'est aussi le Seigneur Jésus. Fait que quand on dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ », ou porter l'armure de Dieu, c'est des synonymes pas mal. Des leçons, évidemment, la leçon principale, c'était les premiers mots qu'on a lus, « Tenez donc ferme », qui était le premier élément, c'est la base. L'application du message, l'armure de Dieu, c'est de tenir ferme dans le combat. Soyons conscients qu'on a des ennemis qui nous attaquent, qui sont beaucoup plus puissants que nous. On est engagé dans un combat, mais qu'on le veuille ou pas, l'ennemi nous attaque. Il est très rusé, il est sournois, il est extrêmement puissant. Donc, on a une armure, il faut la porter, elle doit être portée constamment. Si on l'enlève, on va avoir des blessures. J'ai noté une citation aussi. Nous ne pouvons pas savoir exactement quand, où et comment l'ennemi va nous attaquer. Nous devons donc être revêtus en permanence de toutes les armes de Dieu. Puis je termine par une... En fait, j'ai une autre diapo après. Je vais relire le passage une dernière fois pour qu'on le digère bien, mais je termine par une question, l'aspect des leçons. Probablement que vous en doutez un peu après avoir un passage sur une armure, mais la question, dans quel état est mon armure spirituelle? Est-ce que mon bouclier est rangé quelque part? Est-ce que ma cuirasse est efficace? Est-ce que je porte le casque? Etc. Donc, question personnelle, très personnelle. Dans quel état est mon armure spirituelle? On y a accès, elle est disponible, mais il faut l'utiliser. Question personnelle à chacun. Et comme je disais, quand c'est des courts passages comme celui-là, il y a quand même beaucoup d'éléments. Là. C'est extrêmement pratique. Moi, ce passage-là, honnêtement, je pense que c'est un des plus pratiques. Là. Ça s'adresse à tout le monde. Tous ceux qui sont nés de nouveau doivent comprendre comment porter l'armure de Dieu. Puis je vais terminer en relisant le passage, mais je vais le lire dans la parole vivante. Des fois, c'est un langage plus clair, puis je trouve que ça rend bien ce passage-là. Puis en même temps, comme il y a eu beaucoup de stock que j'ai mentionné, ça permet de peut-être mieux digérer aussi le texte. Donc, on va le relire ensemble. Donc, c'est le même texte, mais dans la version parole vivante. « Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. » Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole en toutes circonstances. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. » Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais faire un petit mot de prière, puis c'est ça. Donc pensons à l'armure de Dieu. Ça touche chacun de nous si on est né de nouveau. Prions. Père Tout-Puissant, merci de nous fournir cette armure, parce qu'on est dans un monde où, à l'époque des Éphésiens, c'était déjà assurément corrompu, mais c'est certainement pas mieux aujourd'hui. L'immoralité partout, Seigneur, les tentations sont partout. On ne sait jamais d'où les flèches peuvent arriver. Mais Seigneur, merci de cette armure. C'est une armure qu'on doit porter à tous les jours. Si on croit être debout, Seigneur, c'est un mauvais signe. Il ne faut pas s'enorgueillir. Il ne faut pas sous-estimer la puissance des ennemis qu'on a à combattre, Seigneur. L'ennemi est puissant. Il attend le bon moment ou le mauvais moment, c'est selon. Mais Seigneur, il faut faire attention. Il faut se confier en toi. Merci de cette illustration d'armure qu'on a, mais merci aussi d'être notre armure, Seigneur. Tu remplis toute cette armure. C'est toi. Alors, se revêtir de l'armure de se revêtir du Seigneur Jésus, c'est la même chose. Merci, Seigneur, de ce qu'on est sauvé, de ce que la victoire est assurée, de ce que bientôt on va être avec toi, de ce que bientôt tu reviens. Mais Seigneur, en attendant, aide-nous, Seigneur, à tenir ferme dans le combat. Seigneur, que tu as gagné pour nous, mais on veut tenir ferme et marcher dans ce monde avec justice et avec toi à tous les jours de nos vies. Et c'est au nom de ton bien-aimé Fils qu'on prie. Amen.